Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Afghanistan, le président américain Joe Biden a été informé de l'attaque de roquettes à l'aéroport de Kaboul et les évacuations se poursuivent sans interruption, a annoncé ce lundi sa porte-parole à la Maison-Blanche, Jen Psaki. Il a reconfirmé au commandant l'ordre de redoubler d'efforts afin de faire en priorité tout ce qui est nécessaire pour protéger nos forces sur le terrain, a-t-elle ajouté. Hier, les États-Unis ont effectué à Kaboul une frappe contre un véhicule chargé d'explosifs afin de supprimer une menace imminente de l'État islamique au Khorasan contre l'aéroport. Un porte-parole des talibans a confirmé qu'un véhicule piégé avait été détruit alors qu'il se dirigeait vers l'aéroport et a ajouté qu'une probable deuxième frappe avait atteint une maison située à proximité. Selon la chaîne CNN, 9 membres d'une famille dont 6 enfants auraient été tués, mais le commandement central de l'armée américaine a précisé par la suite qu'il y a eu des explosions importantes et puissantes à la suite de la destruction du véhicule, indiquant la présence d'une grande quantité de matière explosive à l'intérieur, ce qui a pu causer des pertes supplémentaires. Et CENTCOM a ajouté « Ce qui s'est passé n'est pas clair et nous continuons d'enquêter ». Jeudi à Kaboul, une attaque revendiquée par le même groupe djihadiste avait tué une centaine de personnes, dont 13 soldats américains aux abords du même aéroport. M. Biden a accueilli solennellement hier les dépouilles de ces 13 défunts à Dover, dans le Delaware. Déjà samedi, en représailles, les États-Unis avaient effectué une première frappe de drone dans l'est de l'Afghanistan, tuant 2 membres de haut niveau de ce groupe et en blessant un troisième. Et ils avaient prévenu que ce ne serait pas la dernière. Environ 114 400 personnes, dont près de 5 500 citoyens américains, ont été évacués d'Afghanistan par un gigantesque pont aérien depuis le 14 août, à la veille de la prise de Kaboul par les talibans. De réunions à noter ce lundi sur l'Afghanistan après la date butoir du mardi 31 août, Washington en visioconférence avec ses partenaires clés et à l'ONU, réunion des membres permanents du Conseil de sécurité. Hier, les talibans ont annoncé que leur chef suprême, Hibatullah Akhundzada, qui n'est jamais apparu en public, se trouvait en Afghanistan, dans la ville de Kandahar. D'autres informations sur l'Afghanistan dans quelques instants avec Michel Joseph et John Linden. La ville de la Nouvelle-Orléans s'est trouvée entièrement privée d'électricité dimanche soir, alors que l'ouragan Ida poursuivait sa course menaçante en Louisiane. Classé en catégorie 4 à son arrivée sur les côtes de la Louisiane, Ida est passé en catégorie 3 en début de soirée, la même catégorie que Katrina, qui, 16 ans auparavant, jour pour jour, avait dévasté cet état du sud des États-Unis. Au moins 10 000 enfants en Afrique du Sud ont abandonné l'école depuis le début de la pandémie de coronavirus, qui a fortement affecté le domaine scolaire, a indiqué hier le ministère de l'Éducation. Les cours en présentiel n'ont repris que partiellement depuis la réouverture des écoles en juin 2020, après plus de 2 mois d'enseignement à domicile pour tenter de freiner la propagation du COVID-19. Israël a annoncé hier abaisser à 12 ans l'âge minimal pour recevoir une troisième dose de vaccin contre le coronavirus afin de lutter contre une hausse des contaminations liées au variant Delta. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a rencontré hier le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Première rencontre à ce niveau depuis l'arrivée au pouvoir du premier ministre israélien Naftali Bennett en juin. En Allemagne, le prétendant à la succession d'Angela Merkel dans le camp conservateur, Armin Laschet, est passé à l'offensive hier soir lors d'un débat télévisé pour tenter d'inverser les sondages qui le donnent battu lors des législatives allemandes de fin septembre. La suite de nos informations. En Zambie, le nouveau président Hakainde Hichilema a nommé hier de nouveaux chefs militaires et remplacé tous les commissaires de police. Les détails avec Nathalie Barge.
Dans une adresse télévisée à la Nation, Hakainde Hichilema a annoncé le limogeage des chefs de la police et exhorté la police à procéder à des enquêtes avant d'arrêter des suspects, soulignant que personne ne doit être arrêté avant la fin des investigations. Des défenseurs des droits humains ont accusé son prédécesseur Edgar Lungu d'avoir mené une répression brutale contre les dissidents et dénoncé des violences policières qui ont fait au moins 5 morts sous son mandat. Monsieur Hichilema, qui a été arrêté plus d'une dizaine de fois au cours de sa carrière politique, a fait du rétablissement des libertés un des piliers de sa campagne électorale. Élu le 12 août avec près d'un million de voix d'avance face au sortant Edgar Lungu, il a déclaré lors de son discours d'investiture qu'il veillerait aux libertés fondamentales des citoyens et à l'indépendance des médias.
Le président américain Joe Biden a accueilli ce dimanche les dépouilles des 13 soldats américains tués dans l'attentat de jeudi à Kaboul, attentat qui a fait une centaine de morts, Michel Joseph.
Un à un, couverts d'un drapeau américain, les cercueils ont été débarqués devant le président et son épouse sur le tarmac de la base militaire de Dover dans le Delaware. Le couple présidentiel s'est tenu à la mi-journée aux côtés du chef du Pentagone, Lloyd Austin, du secrétaire d'État Anthony Blinken, du chef d'état-major américain, le général Mark Milley et d'autres hauts responsables de l'armée. Les familles étaient à distance, protégées des caméras. Parmi les 13 jeunes soldats tués, 5 avaient 20 ans. La mort d'une militaire de 23 ans a suscité une émotion particulière dans le pays, après avoir été photographiée une semaine auparavant avec un bébé dans les bras lors des opérations d'évacuation à l'aéroport de Kaboul. Revendiqué par le groupe État islamique au Khorasan, l'attentat de jeudi a fait au total plus d'une centaine de morts, principalement des Afghans qui tentaient de quitter le pays. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière contre les forces du Pentagone depuis 2011 en Afghanistan.
Une centaine de pays ont annoncé hier avoir reçu l'engagement des talibans qu'ils laisseraient partir tous les étrangers et afghans disposant d'un permis spécial, même après le retrait des troupes américaines prévu ce mardi. Précision de John Linden.
Dans un communiqué signé par des dizaines de pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, les signataires assurent qu'ils continueront à livrer des documents permettant de voyager à certains Afghans. Le communiqué, également signé par l'Union européenne et l'Alliance Atlantique, précise prendre note des déclarations des talibans confirmant cette entente. La Chine et la Russie ne figurent pas parmi les signataires. La France et le Royaume-Uni vont plaider ce lundi à l'ONU pour la création à Kaboul d'une zone protégé qui permettra la poursuite des opérations humanitaires, a indiqué le président français Emmanuel Macron. Le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, a affirmé hier sur la chaîne Fox News que les ressortissants américains qui ont choisi de rester pour l'instant ne seraient pas coincés en Afghanistan. Selon le secrétaire d'État Anthony Blinken, il reste au moins 300 Américains à Kaboul.
La Minute Éco, Rosine Mounezero.
Au Kenya, l'opérateur de téléphonie mobile Telkom, qui fait du segment de la data un axe stratégique de sa croissance, veut renforcer davantage ses capacités. Telkom prépare sa connexion au câble sous-marin de fibre optique et voudrait que l'opération soit achevée d'ici la fin de l'année. L'entreprise, qui ne détient que 6,2% des parts de marché du mobile, pourra ainsi améliorer sa position. Une délégation de Mafecam, une entreprise camerounaise pour la mise en place des projets aquacoles, a été reçue à Yaoundé par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales. Mafecam a indiqué qu'elle s'engage à produire 3 millions d'alevins de tilapia et 2 millions d'alevins de silure. Coût de l'investissement, 12 millions de dollars. L'entreprise a sollicité le soutien de l'État, une doléance qui lui a été accordée. En RDC, le gouvernement réexamine l'accord gigantesque sur les minerais contre infrastructures conclu en 2007 avec les entreprises publiques chinoises Sinohydro Corp et China Railway Group. En mai 2021, le président Félix Tshisekedi a annoncé la révision prochaine des contrats miniers d'un montant de 6 milliards de dollars. L'accord prévoit la construction de différentes infrastructures, écoles, routes et hôpitaux pour un coût de 3 milliards de dollars en échange de l'exploitation des réserves de cuivre et de cobalt dans le Katanga.
Merci Rosine. Et maintenant les sports avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
En beach soccer, le Sénégal termine finalement quatrième du mondial russe.
Oui, la marche était décidément trop haute pour les Sénégalais. Éliminés en demi-finale par le Japon, ils n'ont pas su se relever, concédant une nouvelle défaite en match du classement face à la Suisse, score 7-9. La belle aventure russe se termine donc sur une quatrième place pour les joueurs de Ungala Sila. Le sélectionneur sénégalais loue tout de même ce parcours honorable au micro d'Amédine Sy.
Le Sénégal a fait une participation très honorable, étant donné que les objectifs étaient atteints depuis. Donc maintenant, comme on le dit, la petite vie en mangeant, que regardant les autres clubs, ici, on a vu nettement que le Sénégal avait sa place, ou moins la troisième place. Et voilà, le travail continue pour moi. Le plus important, c'est d'essayer de fixer des objectifs vers l'avenir et c'est de continuer le travail.
En basketball, l'aventure se poursuit pour le Sénégal, qui a validé hier son billet pour les quarts de finale de l'Afrobasket au Roi.
Tout à fait. Les Lions de la balle au panier annoncés favoris l'ont confirmé en étant d'ailleurs la première équipe à inscrire 100 points et qualifiée au bout seulement de deux matchs. Le point avec Seydina Abagueyi.
L'équipe nationale de basketball masculine fait jusqu'ici un parcours impressionnant. Les Lions ont enchaîné trois victoires consécutives contre l'Ouganda, le Sud-Soudan et le Cameroun. Les poulains de Boniface Ndong confirment ainsi tout le bien que les observateurs pensent d'eux. Une performance qui conforte l'équipe du Sénégal comme favori, nous dit Momoudou Diop, un furieux de la balle orange que nous avons rencontré au stade de Yoff à l'occasion du championnat de basketball catégorie des moins de 13 ans.
Tout d'abord,
l'équipe nationale du Sénégal de basket est très talentueuse. De jeunes joueurs ont été recrutés, une bonne chose qui apporte, il faut le dire, de la fraîcheur à l'équipe. Un autre point important, certains joueurs se connaissent déjà et développent une certaine complicité dans le jeu. On peut considérer le Sénégal comme prétendant du titre, mais il faut faire attention au Nigeria. L'actuel coach Boniface Ndong, il a une grande expérience acquise à la NBA, car il faut le dire, il est coach assistant et cela démontre un petit peu l'étendue de son talent.
Avec à sa tête l'ancienne superstar du Sénégal et ancien joueur NBA, Boniface Ndong, l'équipe démontre une véritable force. Cependant, Alpha Diallo, amateur de basketball, estime que les Lions de la Teranga devront confirmer ses débuts prometteurs face à de gros calibres comme le Nigeria ou la Tunisie.
Leader le monde parce que
effectivement, l'équipe nationale du Sénégal est leader car elle a marqué plus de 100 points. Les joueurs sont bons offensivement, mais il faut avoir l'honnêteté de dire que jusqu'ici, elle ne rencontre que de petites équipes. Attendons de la voir jouer avec les ténors. À partir de là, elle pourra conforter sa place de favori. L'arrivée de Boniface vient à point nommé. Il a su concilier jeunesse et
vétérans.
Cette remarque sur l'apport de Boniface Ndong est confirmée par Sekou Seydi, journaliste sportif présent à Kigali. Ce spécialiste du basketball sénégalais estime que l'arrivée du coach adjoint des Nuggets de Denver a su insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe nationale.
C'est toujours important d'avoir dans le staff des gens qui ont fait leur preuve, qui ont su mettre ce costume d'entraîneur après avoir été un excellent joueur. Il y a un mix entre ceux qui ont évolué dans le haut niveau et quelqu'un comme Pabigué. C'est lui qui avait l'équipe lors des fenêtres de novembre. Donc c'est plus facile quand même de faire passer le discours quand la personne qui vous parle a plus de vécu, plus de palmarès que vous. Là, il y a le sens du respect.
Vainqueur de l'Afrobasket 5 fois, finaliste à 6 reprises et 5 fois médaille de bronze, les Lions n'ont plus été champions depuis 1997. Une longue disette à laquelle le Sénégal veut mettre un terme avec une équipe jugée plus forte et plus équilibré. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
Le Sénégal, premier du groupe D, sera donc opposé en quart de finale au vainqueur du barrage entre l'Égypte et l'Angola, on soit sacré. Autre équipe qualifiée directement pour les quarts de finale, la Côte d'Ivoire, qui n'avait plus atteint ce niveau depuis 2013. Les éléphants, premiers du groupe C, après avoir battu le Nigeria 77-68, affronteront le vainqueur du barrage entre le pays hôte, le Rwanda et la Guinée.
Merci, Élisée. Plus de 6 ans après le début des attaques terroristes dans le pays, le Burkina Faso annonce qu'il va se doter d'une stratégie spécifique de lutte contre le terrorisme. Le gouvernement promet des mesures administratives pour améliorer les conditions de vie et de travail des combattants, histoire de remonter le moral des troupes. De Ouagadougou, notre correspondant Kader Traoré.
Les actes terroristes sont devenus presque quotidiens au Burkina Faso. Pas une semaine ne passe sans que l'on ne déplore des attaques qui ont fait des centaines de morts ces derniers mois. Le gouvernement veut revoir sa méthode de lutte.
Je voudrais particulièrement vous parler d'une stratégie spécifique qui est la stratégie de lutte contre le terrorisme.
Maxime Koné, ministre de la Sécurité.
C'est un document qui définit une vision sur 5 ans, qui aussi définit un objectif stratégique, qui définit aussi des concepts stratégiques.
Pour Mahamadou Sawadogo, expert en sécurité, il était plus qu'urgent que le pays se dote d'un tel référentiel spécifique.
C'est une nécessité absolue pour le Burkina de se doter de cette stratégie de lutte contre l'extrémisme violent. Et même si elle vient un peu tard après 6 années, il est nécessaire qu'un cadrage soit fait, il est nécessaire que chaque entité qui doit participer à la lutte soit située et son rôle clarifié et défini clairement.
Le gouvernement entend également renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. Le général de brigade Barthélémy Sempouré, ministre délégué à la défense.
Dans les jours à venir, les combattants vont constater qu'un certain nombre de mesures administratives seront prises pour rehausser le moral, améliorer les conditions de vie et de travail de nos hommes.
Cette prise de conscience du gouvernement sur les conditions de vie de la troupe est saluée par les citoyens.
L'idée de prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos braves éléments des forces de défense et de sécurité nous semble très noble.
Docteur Daniel Kéré, enseignant-chercheur à l'Université Thomas Sankara et par ailleurs directeur exécutif du CEDAM, Cercle d'études Afrique-Monde.
Et c'est une idée à saluer et à féliciter parce que nous sommes dans un contexte sécuritaire assez difficile. Tout ce qui peut participer à produire des réponses, des résultats, nous semble être bien indiqué.
Pour l'analyse politique Dieudonné Ouédraogo, qui dit motivation des soldats, dit efficacité sur le terrain.
Une meilleure prise en charge des troupes sur le plan pécunier et sur bien d'autres plans, cela va contribuer à améliorer le moral des troupes. Et c'est essentiel. Dans n'importe quelle guerre, il faut de la motivation. La nouvelle stratégie qui est en train d'être mise au point, qui est attendue depuis 6 ans, depuis le début des attaques, va donner une meilleure orientation et de l'efficacité aux soldats.
L'espoir du peuple est que ces résolutions gouvernementales viennent apporter des réponses rapides face à un phénomène qui ne fait que se métastaser dans les différentes régions du pays. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Bénin, le gouvernement donne un nouveau souffle à l'Institut national pour la promotion de la femme. L'institution va être réformée pour mieux répondre aux préoccupations des femmes, a annoncé le gouvernement. La priorité sera de prévenir les violences sexistes. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
L'Institut national de la femme va succéder à l'Institut national pour la promotion de la femme créé en 2009, mais qui n'a pas su donner les résultats attendus. Le gouvernement a donc décidé de le réorganiser pour plus d'autonomie au niveau juridique et financier. Wilfried Léandron Guédi est le porte-parole du gouvernement.
L'Institut aura la capacité d'ester en justice et de se porter partie civile. Et c'est pour ça aussi que dans ses attributions, l'Institut aura un rôle de plaidoyer. Plaidoyer en direction de certaines couches pour que certaines pratiques socioculturelles qui arrièrent la femme, qui compromettent son épanouissement, son développement, soient reléguées au dernier plan.
Les femmes accueillent la nouvelle avec joie et la considèrent comme une victoire après tant d'années de lutte.
Ce qui va permettre à cet Institut de mieux gérer les violences faite aux femmes et toute forme de discrimination faite aux femmes.
Le chef de l'État vient confirmer sa stratégie à lutter contre les inégalités sociales et à hisser le Bénin à l'échelle des grandes nations.
Et je remercie aussi le chef de l'État parce que depuis un bon moment, tout est mis en place pour revaloriser la gente féminine.
C'est un geste très fort et c'est un grand pas.
C'est le début d'une révolution, c'est la concrétisation déjà d'une révolution. Nous remercions vraiment le chef de l'État. Nous savons qu'on va y arriver.
Les missions assignées à l'Institut sont nombreuses. Elles vont de la promotion de la femme sur tous les plans économiques, politiques, sociales, juridiques et culturelles, tant dans la sphère publique que privée. Pour Dr Yvette Loubogan, présidente de l'Association béninoise des femmes scientifiques, mieux vaut tard que jamais. Le gouvernement a compris l'urgence de redonner à la femme à travers cet institut toute sa place au sein de la société.
Pour moi, c'est une grande satisfaction de voir que finalement, le gouvernement jette un regard sur ce qui se passe au niveau de l'institut. Et je trouve que c'est bien plus précis que ce qui avait comme attribution au départ.
Dans un contexte marqué par les violences basées sur le genre, la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme, l'Institut de la femme reste une bouée de sauvetage pour toutes les femmes qui souffrent en silence, pense pour sa part le sociologue Ernest Kakbo.
Avec cet institut, les femmes auront leur mot à dire et vont comprendre mieux leur participation au développement.
Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons davantage mettre l'accent sur l'éducation. Quand on n'a pas éduqué, on ne peut pas espérer un développement.
Les femmes leaders du Bénin prennent l'engagement de mettre au service de l'Institut les réflexions, les actions et les résultats dans les domaines de la paix et la sécurité, la participation politique, l'inclusion financière, l'autonomisation des femmes rurales, le leadership des jeunes femmes, ainsi que la mobilisation sociale. De Cotonou, Jeanette Fleur Adonné pour VOA Afrique.
En Guinée, l'augmentation des nombres de viols de mineurs préoccupe gouvernement et ONG de défense des personnes vulnérables. Même les fillettes de 2 ans ne sont pas épargnées par ce fléau contre lequel se bat depuis 6 ans le club des jeunes filles leaders de Guinée. Un reportage de Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
Des gendarmes formés à Conakry par le club des jeunes filles leaders de Guinée. Une ONG composée d'adolescentes qui lutte contre des violences faites aux jeunes filles. Pour Kadiatou Konaté, présidente par intérim du club, les pratiques doivent changer.
L'importance en fait de cette formation pour d'abord les gendarmes encore plus nous, c'est de leur permettre en fait de savoir la portée de leur pouvoir mais aussi de leur importance dans la société. Parce que très souvent il y a des services de protection qui essayent de faire le travail de d'autres personnes ou encore de régler à l'amiable les cas ou abandonner voire les cas.
Des cas de viol abandonnés aux grandes dames des parents et pour les victimes aucun mécanisme de prise en charge. Kadiatou Konaté, présidente par intérim du club des jeunes filles leaders de Guinée.
Que c'est très important d'avoir des centres de réinsertion pour les filles. Pour plusieurs raisons. Il peut y avoir des viols et que les parents, quand la fille décide d'engager une procédure, les parents ne veulent pas. Donc à un moment donné, on amène la restriction sur la fille. À ce stade, on a vraiment besoin d'un centre d'accueil, d'un centre de réinsertion pour permettre à la fille d'être dans un endroit plus sûr, plus sécurisé.
Avec la mise en place de la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables et les efforts de l'office de protection du JAR, des enfants et des mœurs, plusieurs plaintes sont enregistrées. Cette mère de famille attend le jugement du jeune qui a violé sa fillette de 2 ans.
J'ai laissé ma fille avec ma sœur qui se stressait. Et quand je suis revenue du marché, ma fille a commencé à se plaindre. Elle dit qu'elle avait mal. Mais après les vérifications, on l'a amenée à l'hôpital. On a trouvé que c'était vrai. Le jeune en question qui a violé ma fille, son tuteur était un béret rouge. Donc on l'a appelé, il est venu, il ne s'est pas bien occupé de la chose. Et finalement, j'ai décidé de porter plainte. J'ai appris que le jeune a été relâché. Mais finalement, je me suis dit que je laissais pour moi à Dieu.
Depuis quelque temps, les langues se délient sur le viol en Guinée. Mais le phénomène va durer si les parents ne prennent pas conscience. Alerte Asma Oba, secrétaire générale du syndicat national des employés de maison.
Ce sont des enfants qui quittent le milieu rural pour les grandes villes. Et ces jeunes filles sont souvent confiées à des personnes ou bien envoyées comme domestiques dans les ménages. Et avant que les parents donnent aux personnes leurs enfants, on leur promet des monts et merveilles. Tandis que sur le terrain, arrivé dans les grandes villes, c'est tout à fait le contraire.
En 2020, 374 cas de viol ont été enregistrés en Guinée, mais il est difficile de dénombrer les victimes et leurs parents qui, à cause des pesanteurs socioculturelles, ruminent leur douleur dans le plus grand silence, loin de tout regard indiscret. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Nigeria, de plus en plus de médecins quittent le pays pour aller exercer ailleurs, un phénomène qui inquiète les autorités sanitaires nigérianes. À Lagos, la capitale économique, et à Abuja, la capitale fédérale, plusieurs centaines de médecins ont postulé la semaine dernière pour des emplois en Arabie Saoudite, au moment où les médecins résidents sont en grève depuis le 2 août dernier à travers le pays. Pourquoi les médecins nigérians souhaitent-ils partir et comment le problème pourrait-il être résolu? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
De nombreux médecins nigériens quittent depuis longtemps le pays pour aller chercher du travail dans d'autres États étrangers comme le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada ou l'Arabie Saoudite, entre autres. Mais la dernière vague de départ massif inquiète les populations. Ces médecins évoquent les mauvaises conditions de travail pour justifier leur départ. Plusieurs centaines de médecins sont venus à l'agence de recrutement de l'Arabie Saoudite à Abuja pour des interviews d'emploi considérés mieux rémunérés à l'étranger.
Nous sommes vraiment déçus et moi personnellement je suis déçu. Je travaille dans un département très sensible. Dans mon hôpital, nous n'avons même pas les équipements de base. J'achète moi-même certains équipements nécessaires pour mon travail, juste pour répondre aux besoins de mes patients.
Je suis diplômé de l'école de médecine depuis avril 2011. Mon professeur d'université est là. C'est la première personne que j'ai aperçue à mon arrivée ici, un vétéran consultant pédiatre. Vous comprenez ce que cela veut dire? Mon professeur qui m'a enseigné il y a plusieurs années, je suis déçu de mon pays, de nos leaders. Je viens ici et je retrouve mon enseignant. Croyez-moi, c'est grave et je ne pensais pas que la situation avait atteint ce niveau-là.
L'insécurité au Nigeria est un autre facteur important qui oblige d'autres médecins à partir vers des pays stables pour exercer leur profession.
Il y a beaucoup de facteurs qui découragent. Vous entendez parler du banditisme, des enlèvements. Et si vous avez un endroit où vous pouvez travailler, un endroit calme où vous pouvez utiliser vos talents et être mieux rémunéré, ce n'est pas mieux?
Beaucoup de médecins ont 3 à 4 différents lieux d'emploi pour pouvoir simplement gagner leur vie au Nigeria. Le ministre nigérian de la Santé, Osagi Ohanire, a récemment affirmé que le défi de la fuite des cerveaux et le désir des médecins de trouver un emploi à l'étranger est un phénomène courant dans les pays du tiers-monde comme le Nigeria, soulignant que son gouvernement fournit assez d'efforts pour empêcher l'exode des médecins nigérians.
L'une des raisons pour lesquelles nous accordons les primes de risque de travail et autres primes, c'est pour essayer de changer les choses et améliorer les salaires. C'est cela notre objectif.
Ces recrutements massifs de médecins nigériens par des agences étrangères s'effectuent à un moment où les médecins résidents de tout le pays sont en grève illimitée pour protester contre le non-paiement des arriérés des salaires et le manque d'équipement dans les centres hospitaliers du pays. Pour l'ancien président du syndicat national des médecins résidents, beaucoup reste à faire dans le domaine de la santé au Nigeria. Docteur Osaon Enabulele.
Je pense que beaucoup de choses doivent être réalisées pour trouver une solution à tous ces problèmes rapidement. Le gouvernement doit faire plus pour résoudre les problèmes qui reviennent chaque fois. Il faut continuer à discuter pour des solutions au lieu de s'engager dans les menaces et des déclarations qui ne profitent pas au progrès de la profession médicale.
Des statistiques disponibles indiquent que sur près de 72 000 médecins inscrits comme membres du Conseil national médical et dentaire nigérian, approximativement 35 000 seulement travaillent sur place dans ce pays de plus de 200 millions d'habitants, laissant un déficit important du personnel dans le secteur de santé du pays. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Bonne journée, à l'écoute.